Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Vice-premier ministre égyptien Boutros Ghali, qui succédera le 1er janvier prochain à Javier Pérez de Cuellar à la tête de l'ONU. Il a été élu secrétaire général hier soir par le Conseil de sécurité de l'organisation. Boutros Ghali, 69 ans, l'homme des accords de Camp David, est le premier Africain à diriger les Nations Unies.
Un Africain, le premier à la tête de l'Organisation des Nations Unies. En ce mois de novembre 1991, le Conseil de sécurité a adopté une résolution recommandant à l'Assemblée générale de nommer Boutros Ghali au poste de secrétaire général de l'ONU. Il a été élu dès le premier tour avec 11 voix en sa faveur et seulement une abstention. Aucun vote négatif. Du jamais vu.
Le 1er janvier prochain, c'est l'Égyptien Boutros Ghali qui succédera au Péruvien Pérez de Cuellar au poste de secrétaire général des Nations Unies. Excellent diplomate, parlant aussi bien le français que l'anglais, chrétien pratiquant marié à une juive égyptienne, Boutros Ghali apparaît comme l'homme de la situation à un moment où l'ONU retrouve son second souffle. En tout cas, il y en a un qui est content, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, aujourd'hui en visite au Cambodge et qui réagit au micro de Ralph Pinto.
En désignant M. Boutros Ghali comme secrétaire général, le Conseil de sécurité choisit un homme de grande expérience et qui dispose de grandes qualités personnelles. Il sera donc tout à fait l'homme de la situation pour gérer les problèmes internationaux qui lui seront soumis.
Qui est ce diplomate qui réussit ainsi à séduire à la fois les Africains, les Américains et les Français ? Qui parvient dans un vote réputé difficile à obtenir presque la totalité des suffrages. Boutros Ghali. Ni tout à fait oriental, ni tout à fait occidental, il est à la lisière de plusieurs mondes. Originaire de la Haute-Égypte, il voit le jour le 14 novembre 1922 au sein d'une famille bourgeoise copte orthodoxe. Il est le petit-fils de l'ancien Premier ministre qui a été assassiné 10 ans plus tôt. Le jeune homme va faire ses études jusqu'au premier cycle universitaire au Caire, où il décroche sa licence en droit en 1946.
J'étais très intéressé aussi bien par des chanteurs comme Abdelwahab et surtout par Om Kalsoum. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'écoutais. C'était presque une sorte de musique de fond au moment où on étudiait, au moment où on lisait, et de pouvoir écouter ses voix.
Sa licence en droit en poche, Boutros Ghali, contrairement à la plupart de ses compatriotes qui choisissent de poursuivre leur scolarité dans les pays arabes ou anglo-saxons, prend le chemin de Paris, le quartier latin.
J'ai passé ma jeunesse en tant qu'étudiant. Après la guerre et après avoir terminé une licence en droit à la faculté de droit de l'université du Caire, a préparé un doctorat d'État à la faculté de droit de Paris et en même temps a préparé mon diplôme de l'Institut des sciences politiques.
Boutros Ghali est déjà intéressé par la diplomatie, avec un focus sur le monde arabe.
Lorsque j'ai continué mon doctorat à Paris et mes sciences politiques à Paris, j'ai choisi comme thèse les ententes régionales parce que je pensais à la Ligue arabe. Donc les articles 52, 53, 54 de la charte qui prévoyaient une coexistence entre les ententes régionales et l'organisation internationale. Donc j'envisageais quel serait le rôle de la Ligue arabe dans le cadre des Nations Unies. Donc je me suis toujours intéressé, j'étais en contact avec les mouvements marocains et algériens ici à Paris, d'une façon discrète, parce que mon oncle m'a reproché, il m'a dit « Tu es un hôte de la France, tu ne peux pas te permettre d'avoir une politique anti-française. Sinon, si tu veux continuer tes études, va les continuer en Suisse ou en Belgique, mais pas en France. »
Les précieux parchemins en poche, Boutros Ghali reprend le chemin du pays.
Et à mon retour au Caire, j'ai commencé tout de suite à enseigner à l'université du Caire. Et là encore, je me suis intéressé aux problèmes de relations internationales. À partir du moment où vous vous intéressez aux problèmes des relations internationales, vous allez vous intéresser à l'unité du monde arabe, la Ligue arabe, les États-Unis du monde arabe. Et il s'agissait d'obtenir l'indépendance de tous ces États. N'oubliez pas que, au moment de la création des Nations Unies, il n'y avait pas des États arabes à ce moment au sein des Nations Unies.
Nous sommes en 1949, lorsque Boutros Ghali est nommé chef du département des sciences politiques à l'université du Caire. C'est dans cette institution qu'il va vivre la fin de la monarchie et le push des officiers qui renversent le roi Farouk en 1952.
From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt.
Depuis le Caire, nous viennent les premières images du coup d'État non violent par lequel l'armée a pris le contrôle de l'Égypte. Le coup a mis un terme aux tentatives du roi de rester au pouvoir. Pour la plupart des Égyptiens, la présence des troupes dans les rues fut la première indication du changement. La station de radio fut ensuite capturée et il fut annoncé que le commandant en chef général Naguib, que le roi Farouk avait refusé de nommer premier ministre, avait pris le pouvoir. L'armée fut ensuite ordonnée de surveiller des zones stratégiques. Le but annoncé de ce coup d'État, mettre un terme à la corruption. Le général Naguib montre l'abdication signée par le roi Farouk en faveur de son fils âgé de 7 mois. Au palais Ras Al Tin, le leader du coup d'État se montre avec Mahir Pacha, le nouveau premier ministre qui a garanti la signature de Farouk. Pendant ce temps, à Alexandrie, le yacht royal vogue vers Capri avec à son bord l'ancien et le nouveau roi. Ce changement est accepté par l'Égyptien ordinaire et il semble que Naguib est assuré du soutien de son peuple. Quant aux conséquences du coup d'État au niveau mondial, elles restent encore à voir.
Dès le mois de septembre 1952, malgré les réticences de certains membres du Conseil de la Révolution, Gamal Abdel Nasser, qui est le véritable chef, va lancer une spectaculaire réforme agraire. Il s'agit de procéder à une redistribution des terres. Jusqu'à cette date, la propriété agricole était dominée par des exploitations de type capitaliste. 280 propriétaires se partageaient près de 60 000 fédan, sachant qu'un fédan correspond à peu près à 4 200 mètres carrés, alors que plus de 2 300 000 petites propriétés ne dépassaient pas 2 fédan. Cette réforme va limiter leur possession à 200 fédan. Il s'agit aussi de pousser les grands propriétaires à investir leur capital dans l'industrie nationale. Boutros Ghali faisait partie de ces familles capitalistes.
J'étais satisfait d'un changement et j'étais persuadé que ce changement va aider à la modernisation de l'Égypte. Mais en même temps, c'était une révolution qui était quand même assez socialiste et qui a, dans une grande mesure, confisqué ou s'est approprié des terres, et mon père était un propriétaire terrien, donc on a perdu une grande partie de la fortune. Ceci dit, ce qui est resté était suffisant pour pouvoir continuer.
Pour tenir le coup.
Pour tenir le coup. La révolution a été quand même assez intelligente pour faire des exceptions. Si un certain nombre de personnes ont été exclues de leur administration gouvernementale, il y avait des exceptions. Entre autres, il y avait une exception pour les professeurs d'université.
Oui, qui étaient respectés.
Qui étaient respectés, donc j'ai bénéficié de cette exception et j'ai participé aux différentes étapes de la révolution.
En même temps qu'il y participe, Boutros Ghali continue d'enseigner le droit international et la diplomatie dans une trentaine d'universités, aussi bien arabes qu'africaines. Il va aussi commettre quelques articles dans des revues. Le journalisme le passionne. Il va même occuper le poste de rédacteur en chef d'une revue Kerot d'économie et de politique étrangère. Mars 1975. C'est un peu la détente dans cette région du Proche-Orient malgré l'opposition de plusieurs pays arabes. Dans un discours à l'Assemblée nationale, le raïs Anwar el-Sadat annonce la réouverture du canal de Suez, la voie d'eau de la paix comme il l'appelle.
Notre décision de réouvrir le canal de Suez, cette artère vitale internationale à la navigation, ainsi que l'œuvre de la construction vont parallèlement avec notre détermination de libérer nos territoires et instaurer une paix juste et durable dans notre région.
Le président Sadat se déclare prêt à autoriser le transit par le canal de marchandises non stratégique destiné à Israël. Les négociations avec l'État hébreu commencent en réalité en 1976. Le premier ministre israélien Isaac Rabin effectue en octobre une visite secrète au Maroc. Par le biais du roi Hassan II, il envoie un message aux Égyptiens. Mais dans la foulée, Rabin perd les élections. Son successeur, Menahem Begin, décide de rétablir le contact toujours par l'entremise du Maroc. En septembre 1977, Moshe Dayan, ministre israélien des Affaires étrangères, et Mohamed Houssan Touhami, vice-premier ministre égyptien, se rencontrent à Tanger, au Maroc. Lorsque les deux hommes se séparent, il est question d'une probable rencontre entre Sadat et Begin. Saisissant la balle au bond, le raïs annonce au monde entier, de la tribune de l'Assemblée du peuple au Caire, son intention de se rendre à Jérusalem, à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement pour discuter du processus de paix. Boutros-Boutros-Ghali.
Dans mes écrits, justement, j'avais parlé de l'importance d'engager un dialogue, même s'il s'agit de l'ennemi. À travers le dialogue, on peut trouver des solutions. Il faut savoir coexister, même si on est très différent. Mmh. Et c'est pourquoi certains auteurs ou certains spécialistes ont dit que c'était moi l'auteur de l'initiative. Ce qui est faux, comme vous le verrez dans ce livre, j'étais le dernier à savoir que le président Sadat avait décidé de faire ce voyage à Jérusalem.
Cette idée du président Sadat de se rendre à Jérusalem divise. Elle ne plaît pas beaucoup à nombre de ses proches collaborateurs. Inenvisageable. Certains décident même carrément de se retirer du gouvernement. Le 17 novembre 1977, Anwar el-Sadat fait appel à Boutros Boutros-Ghali, l'universitaire, pour remplacer son ministre des Affaires étrangères, démissionnaire.
Il m'est arrivé souvent de lui demander et de demander au premier ministre, qui lui était à ce moment le premier ministre, sur quelle base vous m'avez choisi. Et il m'a répondu, nous lisions avec régularité tes articles que tu publiais dans les quotidiens et dans les revues, et on était satisfait de tes analyses, c'est pourquoi on t'a choisi.
Voilà donc le professeur d'université bombardé, ministre d'État chargé des affaires étrangères d'Égypte.
J'étais déjà membre du bureau politique du parti politique, à ce moment il n'y avait qu'un parti politique. J'ai assisté aux efforts qui ont été faits pour passer du parti unique au multipartisme, mais j'étais chargé des relations internationales du parti politique avec les autres partis politiques. Et c'est comme ça que j'ai eu des contacts internationaux extrêmement vagues. Et nous avons même essayé de... J'ai essayé d'abord de faire admettre l'Égypte à l'international socialiste. Ça n'a pas été facile puisqu'on nous a dit vous ne représentez pas vraiment une démocratie dans le sens propre du terme. Et j'ai créé par la suite... Avec la Tunisie et le Sénégal, il y avait Léopold Senghor, il y avait Bourguiba à ce moment, une inter-africaine des partis politiques africains, des pays socialistes démocrates africains. Et par la suite, on a élargi cette association à tous les partis politiques africains. Donc, à partir de 1975, j'ai passé des activités académiques politiques à des activités beaucoup plus pratiques.
Samedi 19 novembre 1977. La nuit tombe sur l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. 20 000 hommes, l'arme au poing, sont aux aguets. Une mobilisation record. L'espace aérien israélien est fermé au trafic. Un seul vol est attendu, celui du Caire. Pour la première fois, des drapeaux israéliens et égyptiens se côtoient. Le grand calicot reprend en arabe, en hébreu et en anglais une phrase. Bienvenue au président Sadat. 18h55. Trois feux percent soudain l'opacité de la nuit. Un bruit d'avion. Tous les regards scrutent le ciel. À 19h comme prévu, Le Boeing venant du Caire se pose sur le tarmac. Une clameur s'élève de l'assistance. Une passerelle est aussitôt placée face à la porte de l'avion, d'où descendent en premier des journalistes surexcités. Dans cette cohue, le chef de protocole israélien monte dans l'appareil. Quelques instants après, Mohamed Anwar el-Sadat apparaît vêtu d'un costume gris clair, un grand sourire aux lèvres. Des applaudissements accompagnent ses pas. Une unité de l'armée, le fusil à l'épaule, pleure d'émotion.
Voilà le président Sadat. Voilà, ça y est, il arrive. Et tout le monde applaudit. Vous entendez les Israéliens, vous entendez les Américains, vous entendez avec le ministre Boutros Ghali à ses côtés. Il est en costume gris clair, il est en cravate à pois, il ressemble à lui-même. La musique officielle, la fanfare qui accueille le président. Il semble extrêmement... sévère, détendu, pourtant ça n'a rien à voir, mais je ne sais pas quelle est l'attitude du président Sadat. Il est très sérieux et il suit tout naturellement le chef du protocole qui l'a précédé.
Anwar el-Sadat est à Jérusalem. Au pied de la passerelle, le président israélien Ephraim Katzir et le premier ministre Menahem Begin attendent. Les poignées de main sont longues et chaleureuses, pendant que les canons tonnent 21 fois. Le raïs passe ensuite la troupe en revue avant de saluer les personnalités venues l'accueillir. Golda Meir, Moshe Dayan, Ariel Sharon, Mordechai Gour et bien d'autres. Presque tous aussi prestigieux. Détendu et souriant, le président égyptien échange des amabilités avec ses ennemis d'hier. À 20h30, le cortège officiel s'enfonce dans la nuit. Direction Jérusalem. Sadat a donc osé. Après 30 années de haine, 4 guerres et des milliers de morts, le président égyptien est à Jérusalem, chez l'ennemi israélien. Un pas décisif vers la paix qui ne laisse personne indifférent et qui suscite partout des réactions contradictoires. À ses côtés, un universitaire de 55 ans qui a été nommé ministre des Affaires étrangères quelques jours plus tôt à la suite de la démission de Fahmi en désaccord avec ce voyage du raïs.
Monsieur Boutros Ghali, moi je voudrais tout simplement vous poser une question naïve à première vue, enfin j'espère qu'elle est naïve. Est-ce que ce voyage va véritablement se faire? C'est le voyage impensable. Comment peut-on croire qu'en une semaine, à l'instigation du président Sadat, le chef de l'État égyptien qui représente la puissance arabe, en tout cas la puissance politique la plus importante, se rende à Jérusalem? Ça vous paraît possible, même si ce soir on en est presque à régler les détails du voyage?
Je vous répondrai par une formule qui a eu beaucoup d'importance dans votre pays en 68, c'est l'imagination au pouvoir.
L'acte le plus inoubliable va se produire le lendemain, 20 novembre 1977. Sadat rentre à la Knesset, le Parlement israélien. C'est un discours de paix et de réconciliation que le successeur de Nasser va prononcer à l'Assemblée israélienne. Il veut la paix, dit-il fermement, mais une paix qui tienne compte des intérêts du peuple palestinien.
Personne dans le monde entier ne peut accepter aujourd'hui des slogans lancés ici à Israël, ignorant l'existence de la Palestine et même se demandant où est le peuple palestinien. Même les États-Unis d'Amérique, votre partisan numéro 1, qui défend l'existence d'Israël et sa sécurité, et qui a aidé et aide Israël par son soutien matériel, moral et militaire, je dis que même les États-Unis ont choisi de faire face à la vérité et de reconnaître au peuple palestinien ses droits.
Ce discours du Raïs Sadat est écrit en partie par Boutros Boutros Ghali, qui devient l'un des principaux acteurs des négociations américano-égypto-israéliennes qui démarrent. Le dialogue est ouvert. Va-t-il parvenir à réconcilier les peuples de cette région? Rien n'est moins sûr. Mais Boutros Ghali entend y apporter sa touche, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal du RFI. Restez à l'écoute.
Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Personne dans le monde entier ne peut accepter aujourd'hui des slogans lancés ici à Israël, ignorant l'existence de la Palestine et même se demandant où est le peuple palestinien.
Ce 20 novembre 1977, contre toute attente, malgré l'opposition de certains membres de son gouvernement, Anwar el-Sadat, le raïs égyptien, est à la Knesset, le Parlement israélien. Et ce discours de paix, qui tient compte des intérêts palestiniens, a été écrit en partie avec la collaboration de son nouveau ministre d'État des Affaires étrangères, nommé 3 jours plus tôt, après la démission de Fahmy, en total désaccord avec l'idée de ce voyage à Jérusalem.
Écoutez, la politique égyptienne vise à une paix globale. Quand le président Sadat a été à Jérusalem, ce n'est pas du tout pour signer ni un accord bilatéral, ni un traité fragmentaire. Donc nous avons l'intention de continuer et nous continuerons jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution globale de la crise du Moyen-Orient. Par global, j'entends d'abord le problème des Palestiniens, le problème des Jordaniens, le problème syrien, le problème libanais. Nous pensons que toute la crise du Moyen-Orient mérite notre attention et mérite notre action diplomatique.
Voilà donc Boutros Ghali sous les feux des projecteurs, nouveau chef de la diplomatie égyptienne. Boutros Ghali.
Je pense qu'il cherchait un acte spectaculaire. Il a souvent utilisé l'expression « un choc électrique ». Un choc électrique non seulement pour l'opinion publique israélienne, l'opinion publique égyptienne, mais aussi l'opinion publique internationale. Parce qu'on ne peut résoudre un conflit que si on obtient la participation d'un médiateur ou l'appui de l'opinion publique internationale. Et je pense qu'avec ce voyage, il a créé ce choc, non seulement à l'égard de sa propre opinion publique, c'est-à-dire l'opinion publique égyptienne, mais aussi l'opinion publique israélienne et enfin l'opinion publique internationale.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Boutros Ghali. Après cet acte courageux commence le long et difficile parcours de la paix. Sadat est un homme seul, mis au banc du monde arabe. Têtu, il ne cède pas. Boutros Ghali.
L'accueil a été enthousiasme. Au contraire, c'est comme l'arrivée d'un prophète, la foule dans les rues, un peu partout, qui nous acclamait. Mais par la suite, n'est-ce pas, le président Sadat, lui, a une tradition de paysan. Quand il y a une dispute entre deux villages avec des vendettas, on s'entretue. Il suffit que le chef du village aille dans l'autre village et partage avec le chef de l'autre, du village ennemi, le pain et le sel, c'est ça l'expression arabe. Ils mangent ensemble, donc il y a la réconciliation. Donc dans l'esprit de Sadat, son voyage à Jérusalem, le fait qu'il s'adresse au Knesset, le fait qu'il va partager la nourriture, le pain et le sel avec les anciens ennemis, tous les problèmes sont résolus. Alors que, une fois que le geste a été fait, une fois que le mur d'incompréhension a été démoli, nous arrivons aux dures réalités. Il faut négocier.
Boutros Ghali va devenir, à partir de ce voyage, l'un des principaux acteurs des négociations américano-égypto-israéliennes qui s'ouvrent.
Et les États arabes, par contre, eux, voudraient négocier une négociation collective. Mais le courage de Sadat a été, si nous continuons d'essayer de trouver une solution à travers une négociation collective, on va échouer. Eh bien, ça c'est un problème qui a toujours dominé la politique israélienne. Ils préfèrent avoir des accords bilatéraux avec les différents États arabes plutôt qu'un accord collectif avec l'ensemble des États arabes. Mmh. Ils se sentent en meilleure position lors des négociations s'ils négocient individuellement avec chacun des États.
En septembre 1978, s'ouvrent les entretiens de Camp David entre Jimmy Carter, président des États-Unis, Sadat et Begin, le premier ministre israélien. Véritable bras de fer qui va aboutir aux accords de Camp David.
Les voilà, après plus de 12 jours de négociations, les reclus de Camp David. Les voilà triomphants, tout heureux du bon tour qu'ils ont joué au monde, qui attendaient avec angoisse ce qui sortirait de leur retraite. Les voilà certains d'avoir obtenu ce qu'ils espéraient de ce sommet. C'est à Carter qui a réalisé son pari, jugé par tous, y compris par les siens presque impossible, que devait bien revenir l'honneur d'annoncer que Begin et Sadat allaient signer quelques instants plus tard un accord cadre pour la paix au Proche-Orient et un accord cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre Israël et l'Égypte. Les noms l'indiquent, il ne s'agit pas exactement de la même chose dans les deux cas. Le cas le plus simple d'abord. Ce que Sadat avait dit qu'il ne ferait jamais, il s'est engagé hier à le réaliser dans moins de 3 mois. La signature d'un traité de paix, d'une paix séparée avec Israël. Le calendrier s'établit ainsi. Avant le 17 décembre de cette année, signature de la paix. Entre le 17 mars 79 et le 17 décembre 79, de 9 à 12 mois d'ici, premier retrait israélien d'une partie substantielle du Sinaï. Dès que ce premier retrait sera terminé, établissement de relations diplomatiques normales entre les deux pays. Enfin, l'évacuation du dernier soldat israélien du territoire égyptien devrait avoir lieu au plus tard 3 ans après la signature du traité de paix, c'est-à-dire le 17 décembre 1981. Un seul point de désaccord subsistait, il faut, pour que tout cela se réalise, que le Parlement israélien d'ici 15 jours accepte de dissoudre les colonies de peuplement dans le Sinaï. Mais enfin, la paix est là, vraiment à portée de la main. La Cisjordanie, c'est plus compliqué. Une période intérimaire de 5 ans a été décidée. Pendant ce temps, il n'y aura pas de nouvelles colonies de peuplement sur la rive occidentale du Jourdain et les Palestiniens qui y vivent éliront leur propre assemblée, disposeront de l'autonomie pour l'administration de leurs affaires, tandis que les troupes israéliennes devront se retirer sur un certain nombre de places fortes. Les représentants élus des Palestiniens devraient participer aux négociations de paix qui s'engageraient alors entre eux, la Jordanie, l'Égypte d'un côté et Israël de l'autre pour déterminer ce que sera l'avenir de leurs terres. C'est loin d'être l'autodétermination que réclamaient les Arabes et Sadat lui-même. Voilà ce qu'ils avaient annoncé, puis à signer Carter, Sadat, Begin, conscients qu'ils avaient fait l'histoire, heureux et scellant devant tous leur alliance.
Ces accords fixaient dans un premier temps un cadre pour la paix au Proche-Orient. Et dans un second temps, ils établissaient un traité de paix entre les deux pays dans les 6 mois suivants. Ils permettaient ainsi à l'Égypte de récupérer le Sinaï en 1982, après le retrait complet de l'armée israélienne et le démantèlement de certaines implantations juives. En contrepartie, Israël obtenait une normalisation des relations diplomatiques israélo-égyptiennes et des garanties sur la liberté de circulation sur les voies d'eau du canal de Suez et du détroit de Tiran. L'accord concernait également les forces militaires, que chacun des pays était disposé à ne plus rassembler près de la frontière. Israël offrait également une garantie de libre passage de l'Égypte vers la Jordanie. Ces accords fragiles, il faut le reconnaître, vont être entérinés par le Parlement israélien 8 jours plus tard.
Begin a gagné cette nuit à Jérusalem. Les députés israéliens ont approuvé à une large majorité les accords signés à Camp David. André Semama, vous êtes avec nous en direct. Begin a donc maintenant le feu vert, mais le plus difficile reste à faire.
Tous les orateurs qui se sont succédés à la tribune de la Knesset ont souligné le prix élevé payé par Israël. Le prix importe peu, ont-ils déclaré en substance, mais ce que beaucoup ont craint, c'est l'abandon de certains points du Nord Sinaï considérés jusqu'à présent comme indispensables à la sécurité du pays. Autre préoccupation, la contestation qui oppose Jérusalem à Washington sur l'interprétation de certains points des accords de Camp David concernant la Cisjordanie et Gaza. Alors même que le débat se déroulait à la Knesset, Washington a cru opportun d'indiquer que le financement de la construction des aérodromes militaires dans le Negev israélien en remplacement des bases du Sinaï ne serait assuré que lorsque les malentendus seront réglés au sujet de la Cisjordanie. Ces points sombres renforcent sans doute la position des pessimistes qui redoutent que le modèle égyptien soit demain appliqué à la Cisjordanie et Gaza, c'est-à-dire l'évacuation complète de toute implantation israélienne. Cette inquiétude n'est pas partagée par la grande majorité des Israéliens qui voient déjà s'ouvrir une ère de paix pour leur pays en cette veille de la nouvelle année juive, l'année 5728, qui sera accueillie dimanche prochain.
Du côté des pays arabes, ces accords de Camp David sont plutôt très mal accueillis. L'Égypte, qui avait porté le leadership à l'époque de Nasser, se retrouve isolée. On l'accuse de n'avoir pas mis davantage en avant ses intérêts. On reproche également à Sadat de n'avoir pas obtenu de concessions israéliennes sur la reconnaissance des droits des Palestiniens à l'autodétermination. Une haine qui s'exprime parfois de façon assez violente. Boutros-Ghali.
Je vous répondrai que je m'attendais à une telle levée de bouclier dans la mesure où, à la suite du premier désengagement, nous avons eu exactement la même réaction émotionnelle. à la suite de l'accord du second désengagement, nous avons eu exactement la même réaction, puis elle s'est calmée. Et ensuite, à la suite de la visite historique du président Sadat à Jérusalem, nous avons eu aussi la même réaction. Je pense que dans les prochaines semaines, les États arabes, dits du front de la fermeté, se rendront compte que ces accords qui ont été conclus à Camp David sont dans l'intérêt de la communauté arabe, ils sont dans l'intérêt de l'implantation de la paix et de la sécurité dans le Moyen-Orient.
Monsieur le ministre, nous allons revenir sur la position du front de la fermeté et vos rapports avec les pays qui en font partie. Mais je voudrais aussi vous demander si l'isolement dans lequel se trouve actuellement l'Égypte ne risque pas d'avoir des conséquences pour votre pays, tant sur le plan économique que sur le plan, par exemple, de politique intérieure. En d'autres mots, est-ce que le président Sadat n'est pas actuellement un homme seul ? Son peuple, certes, le suit, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il ne pourrait pas le suivre toujours si l'opposition de la plupart des autres pays arabes continue ainsi ?
Je ne partage pas votre point de vue. Je ne pense pas que l'Égypte est isolée. Non seulement de nombreux pays arabes partagent l'attitude égyptienne, mais ce qui est plus important, c'est que les peuples arabes partagent ce point de vue, seulement ils ont des gouvernements qui, eux, ne partagent pas ce point de vue.
Aux attaques de la Libye, qui appellent le monde arabe à entrer en guerre contre l'Égypte, et notamment à se débarrasser de Sadat, c'est Boutros Ghali qui répond par le mépris.
Nous continuerons à ce processus, quelle que soit l'attitude des États arabes. C'est une politique irréversible. Nous continuerons à essayer de lutter pour obtenir une paix globale dans cette région, quelle que soit l'attitude des États arabes.
Même si le président Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin reçoivent cette année-là le prix Nobel de la paix 1978, cette dernière n'est pas pour autant obtenue. Loin s'en faut. Il faut maintenant mettre en œuvre les engagements pris. Et les freins sont nombreux. Boutros Ghali, aux manœuvres, dénonce l'attitude d'Israël qui torpille déjà les accords.
Pour le moment, c'est la question palestinienne. Dès le premier jour de nos négociations, nous avons soulevé le problème palestinien et la nécessité d'établir un lien entre l'accord qui devrait être conclu entre l'Égypte et Israël et les modalités qui doivent avoir lieu en Cisjordanie et à Gaza. Et ces négociations ont duré durant des semaines. Et nous avons abouti à un compromis qui a été proposé par les Américains, qui consisterait à avoir un échange de lettres. Un échange de lettres identique, donc c'est un autre traité, une sorte de traité complémentaire. Et dans cet échange de lettres qui aurait lieu entre Israël et l'Égypte, on stipulerait que, un mois après la mise en exécution du traité, des négociations vont commencer entre l'Égypte et Israël, et conformément aux négociations, aux accords de Camp David, il y aurait dans la délégation égyptienne des Palestiniens, qu'ils soient des Palestiniens de Gaza ou des Palestiniens de Cisjordanie, et que, premier calendrier, première date, donc un mois après, et au bout d'un certain nombre de mois, et là il faut se mettre d'accord, il devrait y avoir des élections. Ces élections devraient donner naissance à l'autorité palestinienne, et une fois que cette autorité palestinienne a été constituée, ceci devrait abolir le régime militaire et le retrait des troupes israéliennes des territoires palestiniens occupés afin qu'elles puissent se regrouper dans certaines localités ou dans certaines bases militaires. Les Israéliens ont accepté la première date, je pense que par la suite ils ont aussi même refusé, qui consiste à commencer des négociations un mois après la signature du traité de paix, mais ils sont toujours opposés à la seconde date et à la troisième date, seconde date étant les élections, troisième date étant la fin du régime militaire et le départ des troupes israéliennes. Or, il est impossible pour l'Égypte de conclure un accord qui soit un accord séparé. Et donc, les négociations sont pour le moment arrêtées, surtout sur ce problème de l'échange de lettres entre l'Égypte et Israël à propos du problème palestinien.
Malgré les difficultés et les soubresauts, le traité israélo-égyptien sera signé à Washington en mars 1979 au cours d'une imposante cérémonie.
Une paix de papier, mais une paix quand même. L'Égypte et Israël ont enfin signé le traité après 500 jours de négociations. Sur le terrain, rien n'est réglé. Les durs du camp arabe préparent la riposte.
Sadat est bien sûr à la manœuvre.
Nous avons déjà remis toute la responsabilité de la question palestinienne entre les mains de l'Organisation des Nations Unies. Et dès cet instant, la Jordanie n'a plus rien à voir avec le problème palestinien.
Le Reis dénie à l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, le droit de discuter de l'avenir de la Cisjordanie et de Gaza. Israël évacue El Arish, capitale du Sinaï, et la remet à l'Égypte. Les frontières entre les deux pays sont désormais ouvertes. Mais si le Reis jouit d'une extraordinaire popularité dans le monde occidental, notamment aux États-Unis d'Amérique, il est beaucoup moins aimé dans le monde arabe, qui l'accuse d'avoir fait le jeu d'Israël et de n'avoir en rien contribué à résoudre la question palestinienne qui reste au cœur du conflit israélo-arabe.
Aujourd'hui même, les ministres des Affaires étrangères et des Finances du monde arabe se retrouvent à Bagdad pour punir Sadat, comme les chefs d'État réunis au mois de novembre l'avaient décidé. Mais dans ce monde arabe, on n'est pas d'accord sur le degré, sur l'intensité de la punition. Car qui peut nier que le traité, laborieusement mis au point par le président des États-Unis, malgré sa portée relative, trouble les esprits. Alors il devrait se constituer un bloc dur à partir de l'union entre la Syrie et l'Irak, qui récupérerait une fois de plus et une fois pour toutes peut-être les Palestiniens et qui essaierait de mener ce combat, d'appeler au renversement de Sadat, de distinguer entre peuple égyptien et régime du Caire. Sans compter que dans les rues, on peut s'attendre aussi à une recrudescence du combat des organisations palestiniennes. Hier soir déjà, une grenade a explosé à Jérusalem.
Dès lors, le refus de plus en plus net du cabinet Begin d'accorder une véritable autonomie aux Palestiniens, en Cisjordanie et à Gaza, et plus encore des négociations avec l'Organisation de Libération de la Palestine, donne des arguments supplémentaires aux ennemis de Sadat, qui, surtout à l'extérieur, mais de plus en plus en Égypte, dénonce la duperie des accords de Camp David. Ils accusent le successeur de Nasser de, je cite, « n'avoir chassé les Russes que pour mieux les remplacer par les Américains ». En mai 1980, à la suite de la décision d'Israël de considérer Jérusalem comme sa capitale, Sadat déclare qu'il est inutile de continuer de négocier. Il est de plus en plus seul. Même s'il va rencontrer pour la 10e fois le premier ministre israélien Menachem Begin à Sharm el-Sheikh, à l'intérieur du pays, l'opposition durcit sa critique contre lui. Sadat, excédé, destitue le chef de l'église orthodoxe et déclare la guerre à la puissante confrérie secrète des frères musulmans. D'autre part, il expulse l'ambassadeur soviétique au Caire et ferme le bureau militaire de l'URSS.
Au Caire, c'est en lisant le journal que les Égyptiens ont appris les mesures d'expulsion décidées par le président Sadat. 1500 diplomates et coopérants soviétiques devront quitter l'Égypte dans la semaine. L'ambassadeur du RSS et 6 membres de l'ambassade ont 48 heures pour quitter le pays. Les autorités égyptiennes accusent les soviétiques d'être à l'origine d'une conspiration communiste contre le régime. Le président Sadat a déclaré d'autre part que l'agitation religieuse en Égypte était inspirée par l'Union soviétique. Ils ont poussé les intégristes musulmans à la confrontation contre le gouvernement, a encore précisé le président Sadat. Il s'agit là de la crise la plus grave dans les relations soviéto-égyptiennes depuis l'expulsion de 17 000 conseillers militaires soviétiques en 1972.
À partir de cet instant, ces jours sont comptés. Les ennemis sont dans la bergerie et ne peuvent supporter l'affront plus longtemps. Lui aussi sait qu'il est dans la ligne de mire et qu'il lui est difficile de s'en sortir face à d'aussi redoutables adversaires. Il a encore 2 ans à passer au pouvoir. 2 longues années. Encore que la fin de son mandat ne sonne pas forcément la fin de cette haine. Même si Peter, comme l'appelle le Raïs, puisque Boutros signifie Pierre, continue de sillonner le monde pour faire mieux comprendre la diplomatie de Sadat, il sait qu'elle passe mal au sein des frères musulmans qui l'ont dans le viseur. Les arrestations opérées dans les milieux fondamentalistes semblent plutôt avoir redoublé leur détermination, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Boutros-Boutros-Ghali. Le sang va couler, c'est sûr. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique « Les émissions » ou sur votre mobile en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Boutros-Boutros-Ghali. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite.